Bonjour, bonsoir, bienvenue dans les bulles nomades, le streetcast optimiste. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de l'année 2018, je reviens avec la session de Q&A trimestrielle que je fais à la fin de chaque saison depuis le printemps dernier. Donc c'est un épisode de questions-réponses où j'ai rassemblé des questions particulièrement pertinentes ou récurrentes de ces trois derniers mois de votre part pour y répondre pour tout le monde. Et donc l'article de blog qui est associé à ça, c'est un article d'inspiration et de favoris. Donc des contenus, des œuvres, des personnes qui m'ont inspiré ces trois derniers mois. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire ça. Et donc maintenant, je vais répondre aux questions que j'ai sélectionnées. La première étant... Qu'est-ce que je fais maintenant dans la vie ? C'est-à-dire que notamment après la publication de l'épisode 66 où je vous parle d'oser assumer sa voix, vous avez été plusieurs à me demander sous une forme ou une autre ce que je pratique comme activité quotidienne aujourd'hui. Pour faire simple, on peut dire que je fais partie de ces gens que l'on appelle multipotentiels, multipassionnés, slasheurs, peu importe le nom que vous voulez donner, mais je n'ai pas un seul travail, j'en ai plusieurs. Donc mon métier principal aujourd'hui, c'est d'être écrivain de fiction. Donc je passe un certain nombre d'heures par jour et dans la semaine à écrire, corriger, faire relire, etc. mes œuvres de fiction. Donc il y a des nouvelles et des romans. Je vous invite à aller voir sur le site Floriteller si vous voulez en savoir plus, si vous voulez voir ma bibliographie. Donc ça c'est mon activité principale. Après il y a des choses annexes autour de l'écriture qui, par exemple, c'est de bêta-lire les romans d'autres auteurs, de participer à des salons, de participer par exemple à des jurys de nouvelles ou des choses comme ça. Donc ça fait tout ça, je considère que ça fait partie de mon activité d'autrice de fiction. Ensuite, à côté de ça, je continue à pratiquer une activité de professionnel de la communication indépendante. Donc ça, c'est ce qui me rapporte de l'argent, parce que malheureusement, de nos jours, c'est pas l'écriture de fiction qui rapporte de l'argent, et encore moins quand on écrit de la science-fiction, mesdames et messieurs. Donc, pour payer les factures et pour ne pas faire reposer la charge de payer les traites à ma muse créative, j'ai préféré garder une activité rémunératrice à côté, et donc j'utilise le diplôme que j'ai, qui est un diplôme en communication, pour continuer à avoir des missions de communication auprès de divers clients. Voilà. Et à côté de ça, je suis donc chroniqueuse et chef de rubrique BD pour le site ActuFCF qui fait de la littérature de l'imaginaire, et donc il m'arrive de poster sur Instagram les livres que je reçois pour les chroniquer si ça vous intéresse. Et puis qu'est-ce que je fais d'autre à côté de tout ça ? Puis évidemment, je fais aussi de la création de contenu, ce dont vous êtes au courant si vous écoutez le podcast présent, donc ça fait partie de mes activités que je traite de manière professionnelle aujourd'hui, même si actuellement c'est une activité bénévole qui ne me rapporte pas d'argent et qui d'ailleurs m'en coûte pour héberger tout ça. Mais en gros, j'ai un blog, ce podcast Bulle Nomade et une chaîne YouTube autour du voyage créatif et de vous aider à trouver et suivre votre voie. Et puis j'ai aussi un podcast et un site autour de la simplicité urbaine qui s'appelle Simple et Cité, autour du minimalisme et du slow. Et donc toutes ces activités-là, c'est des activités de création de contenu qui font partie des nombreux projets et activités qui occupent mes journées. Ensuite, deuxième question, donc Stéphane sur Facebook qui me demande « Comment devient-on écrivain ?» Donc il dit « Aspirer à être écrivain » et demande comment j'en suis venue à me dire « Je suis écrivain ». Alors, je lui ai déjà répondu sur son cas particulier, j'essaye au maximum de vous répondre individuellement quand vous m'envoyez des messages, surtout que son message était bien plus long que juste ça, mais j'ai trouvé intéressant de vous répondre à cette question, sachant que vous pouvez remplacer écrivain par quelle que soit votre aspiration. Comment est-ce que je me dis, je suis photographe, musicien, illustrateur, fromager, j'en sais rien. Non, quel que soit le projet que vous souhaitez monter. Et donc, par rapport à ça, moi j'ai envie de dire que à partir du moment où vous écrivez tous les jours, vous êtes un écrivain. Même si vos histoires ne sont pas terminées, même si vos histoires ne sont pas publiées, à partir du moment où vous faites le travail et où vous considérez ce travail de manière professionnelle, c'est-à-dire en écrivant tous les jours ou en pratiquant du coup votre activité tous les jours, en vous formant, en discutant avec vos différents partenaires de manière professionnelle, alors vous pouvez très bien dire « je suis écrivain ». En fait, vous avez besoin de personne pour valider ce statut, c'est à vous de décider, de vous dire « bah voilà, là maintenant je suis plus aspirant ou aspirante, je pratique ce métier, simplement que je suis en début de carrière ». Si vous êtes en début de carrière, évidemment. Mais je suppose que si vous n'êtes pas en début de carrière, vous ne vous poseriez pas cette question. Par rapport à l'écriture et à tous ces projets, en fait, quand c'est quelque chose qui est en cours, Par exemple, si vous voulez, je suis fromager, bah peut-être que votre fromagerie, elle est ouverte, que vous vendez des fromages. Donc du coup, c'est plus simple de justifier, entre guillemets, que vous êtes fromager. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais voilà. Par contre, quand on se dit « je suis écrivain », il se passe plusieurs années avant une première publication, parce qu'il faut le temps d'améliorer sa plume, de faire plein de textes pourris avant de commencer à produire un texte qui a vraiment de la valeur de publication. Ensuite, il y a tous les envois aux éditeurs, tous les refus, la première personne qui vous dit oui, et après, il faut vous caler dans le calendrier éditorial de la personne. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend plusieurs années. Et généralement, ce que je dis aux gens qui me posent cette question-là ou qui me disent « Ah bon, t'es écrivain, mais t'as publié quoi ?» C'est que je leur dis « Admettons que vous soyez un architecte et que vous participiez à la création d'un bâtiment. Monter, construire un bâtiment, ça peut prendre plusieurs années. Et l'architecte, il va aller au travail, il va travailler tous les jours, tout seul ou en équipe, pour établir les plans du bâtiment en question. Et puis le bâtiment va être construit 5 ans plus tard. Est-ce que pendant ces 5 années-là, l'architecte n'est pas architecte ? Ben si, il est architecte, il travaille quand même. C'est juste que le fruit de son travail n'est pas encore visible puisque le bâtiment n'est pas encore construit, mais il est bien déjà architecte. Donc moi je vous invite à réfléchir à cette métaphore-là en fait, et à vous dire qu'est-ce que vous faites au quotidien dans votre travail, dans votre aspiration, dans votre activité artistique, pour que dans quelques années vous ayez justement une œuvre finie à montrer. Si vous travaillez vers la création de cette œuvre finie à montrer, alors vous pouvez vous dire « je suis écrivain, je suis artiste, je suis photographe », tout ce que vous voulez. Troisième question, Caro Colline sur Instagram, à propos de l'épisode des Bulles Nomades sur les valeurs, demande. Enfin, elle me dit « je suis pas sûre d'avoir compris, parce qu'en listant la liste des valeurs, il y en a certaines qui me représentent, que je suis actuellement, et puis d'autres que j'aimerais avoir, qui sont un petit peu mon objectif de valeur à atteindre. Il faut choisir lesquelles dans les 10. » Donc j'ai trouvé que le message était très intéressant parce que ça divise un peu les valeurs en deux choses, qui sont les valeurs que vous estimez suivre déjà aujourd'hui, et les valeurs que vous aspirez à intégrer davantage dans votre vie. Alors personnellement, je pars du principe que pour mener une vie qui a du sens et qui nous ressemble, c'est hyper important de faire de notre mieux pour s'aligner avec nos valeurs. C'est-à-dire pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient toutes alignées sur la même chose et que cette chose-là, ce soit les valeurs qui sont importantes pour vous. Pas les valeurs que la société vous dit qu'il faut suivre ou les valeurs que votre éducation ou votre environnement vous ont inculquées, mais des valeurs qui vous importent à vous, qui correspondent à la personne que vous avez envie d'être. Donc à partir de là, si vous faites l'exercice que j'avais proposé dans cet épisode-là sur les valeurs, de lister les valeurs qui sont importantes pour vous, moi je vous invite à lister les deux indistinctement en fait. Vous listez les valeurs que vous pensez déjà être en mesure de suivre et les valeurs que vous avez envie d'intégrer dans votre vie, puisque dans tous les cas, ce sont les valeurs les plus importantes à vos yeux. Et si dans votre top 3 des valeurs les plus importantes à vos yeux, vous voyez qu'il y en a une ou deux, ou peut-être même les trois, que vous n'appliquez pas vraiment au quotidien à ce jour, eh bien c'est peut-être un signe que justement vous ne vivez pas en accord avec vos valeurs aujourd'hui, et c'est peut-être le moment justement de vous demander qu'est-ce que je pourrais faire pour vivre davantage en accord avec mes valeurs. Et donc je vous invite à écouter ou réécouter les 3 derniers épisodes des Bulles Nomades, numéro 74, 75 et 76, où je vous propose des exercices pour initier la nouvelle année avec le voyage créatif. Et dans les tout premiers exercices d'introspection, je vous invite justement à choisir des valeurs pour l'année 2019. Eh bien, peut-être que c'est l'occasion de sélectionner des valeurs qui sont très importantes pour vous, mais que vous n'avez pas l'impression de vraiment suivre au quotidien, pour ensuite trouver des pistes concrètes pour intégrer davantage ces valeurs dans votre quotidien. Ensuite, Gontran sur la Nif en l'air, donc le blog, sous l'article de présentation de l'étape inspiration du voyage créatif, me dit que ça lui fait penser au réalisateur Quentin Tarantino. Je cite Gontran. Il a ingurgité pendant des années tout un tas de films et a fait ressortir toutes ses inspirations dans ses films. On considère à juste titre comme originaux. Il a su réaliser du contenu original à partir de matériaux existants. Quand j'étais en école de réalisation audiovisuelle, on nous a appris que Tarantino tirait son originalité de sa parfaite connaissance de son sujet, de la manière classique, entre guillemets, de réaliser des films. Et à partir de là, savoir déconstruire une histoire, sa maîtrise du montage rendait originale une histoire qui aurait eu peu d'intérêt ou qui aurait été 1000 fois vue dans une forme classique. On voit dans cet exemple que l'inspiration a rempli le chaudron de l'auteur, qui a su en sortir une recette qui lui est propre, sans pour autant renier les ingrédients qui la composent. Donc Gontran ne pose pas de questions, mais je trouve que son commentaire est un exemple très pertinent de ce que c'est que cette étape d'inspiration. Et qu'il ne faut pas avoir peur de s'inspirer de ce qui nous entoure et de s'inspirer, par exemple, de gens qui pratiquent le même genre d'activité que vous, le même genre d'art que vous. Moi, par exemple, en tant qu'autrice de science-fiction, je lis énormément de livres de science-fiction, je joue à des jeux de science-fiction, je regarde des films et des séries télé de science-fiction. Faut surtout pas avoir peur de se faire influencer. Au contraire, laissez-vous influencer, digérez tout ça, et c'est dans... Une fois que vous maîtrisez très bien votre sujet grâce à vos différentes inspirations, que vous pouvez arriver à produire un contenu qui sera quand même le vôtre, parce que vous allez y ajouter votre voix. Et donc voilà, l'exemple de Quentin Tarantino me paraissait particulièrement pertinent et illustrait parfaitement ce que j'entends par l'étape d'inspiration, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Ensuite, une autre question beaucoup plus pratico-pratique, c'est Cyril sur Twitter qui demande si l'application OmniFocus fonctionne sous PC ou Windows. Alors je tenais à ajouter la question, même si c'est très précis et spécifique, parce qu'effectivement, il m'arrive régulièrement de parler de mon PC, entre guillemets, ou de mon PC portable, entre guillemets, alors qu'en fait, je parle de mon MacBook, c'est-à-dire que je suis sous environnement Mac sur... Eh bien, mon PC portable, quoi. et du coup, il peut m'arriver de dire sur mon PC, j'ai installé ci ou j'ai installé ça, alors qu'en fait, c'est un Mac. Donc, du coup, je voulais bien préciser ça. Si vous avez écouté la mini-série d'organisation, et notamment l'épisode sur l'organisation numérique où j'ai parlé de mes outils, et donc j'ai parlé d'OmniFocus, qui est un outil de gestion de projets et de tâches numériques qui est disponible à la fois sur ordinateur, tablette et téléphone. Donc effectivement, OmniFocus n'est disponible que pour les OS Apple, donc macOS et iOS pour iPhone et iPad. Et c'est un achat unique, c'est pas un système d'abonnement. Par contre, il faut racheter le logiciel quand il change de version. Donc là, il y a quelques semaines, ils ont sorti OmniFocus 3. Et si je veux passer à OmniFocus 3, il va falloir que je le rachète, même si j'ai acheté OmniFocus 2. Donc effectivement, OmniFocus n'est pas disponible sur PC, Windows ou Android. Mais après, il existe tout un tas d'applications de gestion de tâches sur ces plateformes-là. D'ailleurs, si vous êtes utilisateur ou utilisatrice de PC et ou de tablette Android, n'hésitez pas à me partager les applications de gestion de tâches que vous utilisez pour que je puisse les suggérer aux auditeurs et auditrices qui ne sont pas sous environnement Apple. Enfin, sur le Discord des Studcasters, nous avons eu une petite discussion entre Gontran, Nico Réagi et Odile à propos du singe dans la tête dont je vous parle dans l'épisode 74 pour l'exercice du parle-singe qui consiste à écrire en gros tout ce qui vous passe par la tête, de le vider sur le papier en fait, parce qu'en fait ça vous permet de vider toutes les pensées qui traînent dans votre tête et que vous ressassez, qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer, et peut-être que ça fait ressortir aussi des peurs, des problèmes que vous avez en ce moment, des choses qui vous tracassent. Et effectivement, je donnais l'exemple, c'est comme si on avait un singe en fait dans notre tête, parce que c'est finalement les forces de préservation un petit peu, c'est les forces un petit peu... entre guillemets primitive, d'où le fait d'avoir utilisé la métaphore du singe, puisque c'est en fait les pensées qui nous incitent à écouter nos peurs, à rester dans notre zone de confort, à pas sortir de la grotte, à pas se faire choper par un tigre dans la jungle, si vous voulez. Et du coup, Gontran disait que ça faisait penser à Pensouillard le hamster, qui est la métaphore de Serge Marquis dans le livre « On est foutu, on pense trop », qui est un livre que je vous recommande chaudement d'ailleurs. Et donc dans ce livre, Serge Marquis parle de Pensouillard le hamster qu'on a dans nos têtes et qui est dans sa roue en fait et qui n'arrête pas de courir dans tous les sens quand on ressasse, et pourquoi lui il m'a fait une queue de poisson, et c'est bizarre mon chef, il m'a pas mis en copie de sommeil, ah là là, puis les enfants ils sont très bruyants tout le temps, blablabla, et on ressasse et on ressasse et on ressasse, et ça c'est le hamster qui court dans sa roue, et c'est un peu la pensée mentale ou la pensée égo qui fait qu'on se focalise sur ce truc là, et je pense qu'effectivement ça se rejoint avec ce que j'appelle les forces de préservation, c'est-à-dire que c'est ce truc là qui essaye de préserver l'ego, de préserver la vision du monde qu'on s'est créé et qui se crée des histoires, en fait, pour justifier ou pour expliquer un petit peu la réalité qui nous entoure. Donc, effectivement, on a beaucoup d'animaux dans nos têtes. On a un singe, on a un hamster. Mais je pense que ces métaphores-là sont un petit peu pour la même chose, c'est-à-dire toutes ces pensées qui nous colonisent la tête de manière non intentionnelle. Et en fait, l'objectif du genre d'exercice dont je vous parle sur les bulles nomades, et notamment du parle-singe, c'est de conscientiser tout ça, de vous rendre compte des pensées que vous avez dans votre tête, et en fait, de prendre conscience de ce qui se passe dans votre tête et de prendre conscience que vous n'êtes pas vos pensées. Vous pensez vos pensées, mais vous n'êtes pas ce que vous pensez. On en reparlera si ça vous intéresse dans un épisode dédié. Mais du coup, je voulais vous parler un petit peu de ce parallèle entre le singe du Parle Singe et Pensouillard le hamster de Serge Marquis. Eh bien, c'est tout pour la session de questions-réponses d'automne 2018. J'ai enregistré cet épisode début décembre, puisqu'après j'avais donc pas mal de travail et puis les fêtes de fin d'année. Donc si vous m'avez posé des questions dans le mois de décembre et qu'elles n'y figurent pas, c'est tout simplement parce que j'avais déjà enregistré l'épisode. Mais ne vous inquiétez pas, à chaque fois que je reçois en fait des messages et des questions, je les note dans un fichier. Et du coup, ça me permet de sélectionner après les questions les plus récurrentes ou les plus pertinentes pour les prochaines sessions de questions-réponses. Et donc, on aura une autre session de questions-réponses fin mars 2019 pour donc les questions-réponses de printemps 2019. En attendant, merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a été utile. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si vous écoutez cette bulle nomade au moment de sa publication. Et dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse soirée et à la prochaine !